Il est 6h46 minutes. On se connecte directement à Paris pour parler à Monsieur Claude Reichmann. Oui. Monsieur Reichmann, comment allez-vous?
Je suis là, vous m'entendez bien?
Ben oui, je vous entends très bien. Ça fait un... Oui, voilà.
Eh ben voilà, c'est parfait. Donc, je vais bien même.
Oui, ça va très bien. 46 minutes de retard. 47 minutes, pardon.
On a eu des petits problèmes de liaison, là, je crois.
Oui. C'est un problème, c'est autant, je crois que c'est de mon côté et autant du vôtre, parce que des fois, ça peut faire défaut avec ce système de logiciel qui... vous fait pas apparaître, je sais pas, on n'est pas à nos premiers balbutiements de ce genre d'événements, d'erreurs que un logiciel comme Skype peut faire. Alors voilà, Monsieur Reichmann, oui, ça va très bien, de retour en pleine forme, content de vous parler et j'allais justement vous poser quelques questions. Comment ça va du côté de votre côté, l'air du pays, comment est-elle bonne, Monsieur Reichmann?
L'air n'est pas mauvais, mais ça dépend ce que l'on met dans l'air aussi. C'est-à-dire que l'air campagne, c'est pas terrible, mais ce qui ne va pas très bien, c'est l'air politique et l'air économique.
Parlez-moi-en, s'il vous plaît.
Eh bien, écoutez, nous avons une forte pollution économique, c'est-à-dire qu'il y a, comme vous le savez, une crise économique très grave actuellement en Europe et tout particulièrement en France. Les entreprises disparaissent les unes après les autres, elles licencient ou elles se délocalisent. Nous avons une croissance qui est pratiquement moribonde, c'est-à-dire qu'on est même pratiquement entré en récession.
Oui,
c'est une situation extrêmement grave et qui est due tout simplement au fait que nous avons en France des charges sociales qui sont si importantes que les entreprises n'arrivent plus à faire face.
Eh bien, lorsqu'on parle, M. Reichmann, d'entreprises qui licencient et qui décident de partir ailleurs, d'exiler vers des terres plus intéressantes, faut pas se cacher que c'est pour sauver, dans le fond, se sauver un peu du coût de la vie, de l'imposition que le gouvernement qui est en place, ou enfin depuis plusieurs années, qui a tout simplement vidé les poches des contribuables, mais maintenant qui essaie de vider les poches des entreprises. C'est pour ça qu'ils décident de quitter comme ça la France.
Elle n'arrive plus à faire face à la concurrence. Les charges des entreprises sont extrêmement importantes et vous savez que nous sommes ici comme chez vous dans une concurrence totale et donc les pays qui ont moins de charges ont des entreprises qui vivent beaucoup mieux et donc les entreprises françaises au début ont réussi à faire passer dans leur marge la différence de coût salarial et de charges, mais maintenant ils n'y parviennent plus, donc elles n'ont plus d'autre choix que de s'en aller et c'est absolument dramatique. Vraiment, nous sommes dans une situation qui exigerait une politique radicalement différente, c'est-à-dire une politique d'allègement des dépenses publiques. Et le gouvernement de M. Sarkozy, depuis qu'il est là, n'a absolument pas baissé les dépenses publiques. Donc, on ne voit pas d'issue maintenant dans un avenir proche, sauf si le gouvernement décidait de changer de politique, mais manifestement, il n'en est pas question. Donc, comme disait l'autre, nous sommes au bord du précipice et nous avons fait un grand pas en avant.
Dites-moi, lorsque Nicolas Sarkozy, parce que j'en parlais la semaine passée et je suis revenu un peu cette semaine sur ça, ses promesses électorales, est-ce que je me trompe, M. Reichmann, il me semble qu'il avait parlé d'une petite baisse d'impôts pour alléger le fardeau fiscal des contribuables.
Il avait parlé de diminuer les dépenses publiques de 4 points de PIB, de produit intérieur brut, on n'avait pas compris exactement, 4 ans, peut-être 8 ans, mais enfin, en tout cas, il avait promis de baisser les charges fortement. Bon, il faut quand même savoir que ça représente, le PIB de la France, ça représente à peu près 1800 milliards d'euros. Et donc, quand vous voulez baisser un point, donc ça fait 18 milliards d'euros. Et 4 points, ça fait pas loin de 80 milliards. Donc, ce sont des sommes absolument gigantesques qui exigent un changement de politique. Il faut arrêter de dépenser. Donc, comme on n'a pas arrêté de dépenser, eh bien, les choses continuent d'aller mal et elles vont hélas continuer d'aller mal puisque le gouvernement semble n'avoir pas compris encore les raisons de la crise. Vous savez, les gouvernants français sont un peu comme un médecin qui prétendrait soigner un malade sans savoir ce qu'il a. Alors ils disent, ben tiens, vous allez prendre un peu de ceci, ah ça va pas, ben vous allez prendre un peu d'autre chose, ah puis, oh bon, on va encore changer. Puis, donc au bout du quatrième ou du cinquième médicament, rien ne marche. Alors le médecin s'énerve, il dit, enfin vous y mettez de la mauvaise volonté, comment se fait-il que, etc. Enfin bref, tout se met à aller de plus en plus mal, et la situation, on ne voit pas d'issue à une telle situation. Il ne manque pas de gens pourtant compétents ici et là pour expliquer les choses, mais les politiciens sont complètement coupés des réalités, et ils n'écoutent en général que les spécialistes, entre guillemets, qui leur disent qu'ils ont raison, donc... pas aller très loin comme ça.
Monsieur Reichmann, jusqu'à maintenant, Nicolas Sarkozy n'a pas fait grand-chose.
Non, Nicolas, c'est vrai.
Non, il n'a pas respecté. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pratiquement pas, voire du tout respecté ce qu'il avait comme programme, enfin ce qu'il avait fait comme promesse?
Non, il n'a absolument pas respecté. D'abord, il a fait un programme qui était fondé sur le mot de rupture, quelque chose de sérieux, de solide. Dans ce qu'il a fait, il n'y a pas de rupture. Bon, il y a quelques petites réformes qui ne sont pas forcément mauvaises. Bon, il a allégé, par exemple, les charges sur les droits de succession. Mais enfin, pour en bénéficier, il faut mourir, comme disait l'autre.
Oui.
Ça n'est quand même pas une perspective très engageante.
Non.
Et puis ça ne représente pas beaucoup d'argent. Et puis alors, la mesure phare qu'il a prise, ça a consisté à détaxer les heures supplémentaires. Mais le problème des Français, comme je l'ai dit bien souvent, ça n'est pas de faire des heures supplémentaires, c'est de faire des heures normales. À partir du moment où des entreprises ferment, où il y a des licenciements, où il y a des délocalisations, ce qui manque, ce n'est pas les heures supplémentaires, c'est les heures normales. Et donc, le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il ne comprend pas ce qui se passe en France. Il est dans une situation vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, de la situation du médecin qui n'a pas fait un diagnostic correct. Il est incapable de soigner le malade. Donc, ce qu'il aurait dû faire, et ce que les Français avaient cru comprendre, c'est qu'il allait baisser fortement les impôts et les charges, mais pour ce faire, il faut baisser les dépenses. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous ne baissez pas les dépenses, vous êtes obligé, comme ces dépenses sont plus ou moins obligatoires, vous êtes obligé à ce moment-là d'emprunter pour y faire face, et naturellement, qui dit emprunter dit rembourser, en tout cas essayer de rembourser, c'est-à-dire que la dette augmente, les intérêts de la dette aussi. Et vous savez qu'en France, un exemple qui est quand même très frappant, c'est qu'on est en train actuellement, enfin depuis d'ailleurs pas mal d'années, d'emprunter pour payer les intérêts de la dette.
C'est très malsain.
N'importe quelle entreprise qui se comporterait comme ça se verrait très vite, d'abord immédiatement arrêtée par ses banquiers qui lui diraient « mais vous ne gérez pas d'une manière sérieuse » et deuxièmement, elle serait en faillite très rapidement. Alors la France, jusqu'à présent, bénéficie de deux circonstances favorables. D'abord, du manque total de lucidité des agences de notation qui se sont d'ailleurs illustrées déjà dans l'affaire des subprimes, et qui n'ont rien vu venir, ou si elles ont vu venir, elles n'ont rien dit, parce qu'il faut que vous sachiez, vous le savez peut-être même, que en fait les agences de notation étaient aussi les conseillères des organismes qui plaçaient des subprimes, c'est-à-dire des emprunts hypothécaires. Donc elles étaient dans les deux camps, et il fallait qu'elles les notent. Alors comme elles étaient conseillères, elles n'allaient pas les noter mal. Et donc actuellement, les agences de notation considèrent que la dette de la France est une bonne dette, tout simplement parce que la France peut continuer à prélever des impôts pour payer ses dettes. Mais le problème, c'est que quand il va y avoir, quand l'impôt, et le moment est venu maintenant, puisque la croissance diminue et donc les rentrées fiscales vont diminuer, eh bien nous n'arriverons plus à collecter suffisamment d'impôts. Et j'attends avec intérêt ce que vont dire les agences. Si elles disent, par exemple, que la dette de la France est de nouveau discutable, alors je peux vous dire qu'à ce moment-là, les taux d'intérêt des emprunts que contractera la France vont devenir de plus en plus importants et on aura de plus en plus de mal à les payer. Enfin, moi, j'en suis arrivé à une conclusion qui est assez assez triste, c'est le fait que, à partir de maintenant, on se demande s'il ne faudrait pas vraiment qu'il se passe quelque chose de grave pour qu'enfin la France s'en sorte. Parce qu'on a vraiment le sentiment que les Français ne sont même plus conscients de ce qui se passe.
Je vous entends très bien. Là, en ce moment, parce que ce que je comprends pas, M. Reichmann, c'est que la devise européenne est une des devises les plus chères, pratiquement, enfin, en dessous de la livre sterling quand même, mais j'ai de la misère à comprendre comment se fait-il que si la devise européenne est évaluée beaucoup plus que celle du Canada, écoutez, pour un dollar européen, pour un euro, de notre côté, il nous faut 1,50 $ canadien pour en obtenir un. Alors, vous voyez un peu. Pour obtenir un euro, ça nous coûte 1,50 $ canadien. Bon. Les Américains, eux aussi, en arrachent beaucoup vu la récession concernant le nombre de prêts qui a été accordé aux Américains pour s'acheter une maison au niveau de l'immobilier. Mais j'ai de la misère à saisir comment se fait-il que l'euro soit aussi élevé en ce moment.
C'est parce que les taux d'intérêt en Europe sont beaucoup plus élevés qu'en Amérique. Et la raison de ces taux d'intérêt élevés, c'est que, curieusement, la Banque Centrale Européenne a surtout peur de l'inflation. Et alors, c'est un petit peu plus complexe même que cela, puisqu'elle a peur de ce qu'on appelle les effets de deuxième tour. Alors, l'effet de deuxième tour, c'est quoi?
Expliquez-nous.
C'est simplement le fait que quand il y a une inflation importante, elle génère au bout d'un moment, et assez rapidement parfois, des comportements de réclamation de la part des salariés qui, voyant que les prix augmentent, réclament des augmentations de salaire. Et à ce moment-là, on rentre dans un cycle qui est un cercle vicieux, qui est celui des augmentations de salaire, qui alimente à ce moment-là l'inflation, etc., etc. Mais il se trouve que la plupart, des hausses de prix en Europe, en tout cas, sont dues non pas à ce que l'on appelle l'inflation de base, si vous voulez, c'est tout simplement le fait que les produits alimentaires et surtout le pétrole avaient beaucoup augmenté. Le pétrole a diminué là depuis, mais la Banque Centrale Européenne est totalement sourde au fait que des taux d'intérêt élevés sont évidemment très difficiles pour les entreprises qui veulent emprunter. Donc c'est une situation très difficile. Alors à quoi la Banque Centrale répond? Oui, mais si vous dépensez moins, vous, les États, eh bien, si vous baissez les impôts, à ce moment-là, vous verrez que l'activité reprendra. Mais c'est un véritable dialogue de sourds, et donc actuellement, on ne voit pas vraiment comment les choses vont pouvoir s'arranger. La Banque Centrale, pour l'instant, maintient ses taux à 4,25, ce qui est quand même assez élevé, mais compte tenu de l'inflation qui est autour de 3,6, c'est un petit peu au-dessus de l'inflation. Mais le vrai problème, en fait, c'est moins les taux d'intérêt, sauf, bien entendu, sur la valeur de la monnaie dans les échanges internationaux, mais le vrai problème, ce sont les dépenses publiques. Et là, nous avons, nous, un véritable problème en France, parce que les Allemands ont, depuis 2000, beaucoup baissé leurs dépenses publiques. Ils ont serré les salaires, ils ont réduit les dépenses en général, et ils n'ont pratiquement plus de déficit. Ils ont un tout petit déficit de 0,5% du PIB, alors que la France navigue allègrement entre 2,7% et 3%. Et surtout, nous avons 9 points de PIB de dépenses publiques de plus que les Allemands. Ce qui veut dire, c'est incroyable. Ça représente vraiment des sommes considérables. Et donc, 9 points de PIB, ça nous rend totalement non compétitifs. Et c'est la raison principale, d'ailleurs, pour laquelle les Français, l'économie française vend de plus en plus difficilement à l'étranger. On a un déficit commercial qui va très certainement dépasser 50 milliards d'euros cette année, alors que les Allemands approchent de 200 milliards d'excédent commercial. Oui. Alors, vous voyez, c'est une situation très déséquilibrée. Elle est d'autant plus grave et inquiétante que c'est la France et l'Allemagne qui sont les deux principales économies de la zone euro. Donc on voit bien que c'est malsain, si vous voulez, d'avoir à faire une situation pareille. Donc moi, je crois que nous allons vers de grosses difficultés.
D'accord. Sûrement que je vous ai déjà posé la question, mais comme nous ici au Québec, par rapport au, comme nous ici au Canada, on a énormément de fonctionnaires. Est-ce que c'est le même cas du côté de la France? Je présume que oui.
Ah ben ça, bien sûr. On en a, c'est bien simple. On en a.
C'est pas un secret de Polichinelle.
Ah non, là, ça n'a rien de secret. C'est tout à fait public. Oui, nous avons beaucoup trop de fonctionnaires en France. C'est-à-dire que nous avons à peu près. Bon, ce qui s'est passé, c'est que en 1982, le gouvernement socialiste de l'époque se sont traduites par l'embauche depuis cette date de plus d'un million de fonctionnaires qu'on appelle les fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire ce sont les fonctionnaires des régions, mais ils entrent dans le compte des fonctionnaires. Puis vous avez en plus les fonctionnaires des hôpitaux, c'est-à-dire les infirmières par exemple ont le statut de fonctionnaire, et donc toutes ces professions pourraient parfaitement être exercées sans le statut de fonctionnaire. Je ne vois pas pourquoi une infirmière doit être fonctionnaire, surtout qu'il y en a qui sont libérales. Je ne vois pas pourquoi un employé dans une collectivité comme une région ou une commune doit avoir le statut de fonctionnaire. C'est absolument ridicule. De même, on peut sous-traiter énormément de choses au niveau de l'État. Et donc, tout ceci a créé une telle charge budgétaire que la France n'arrive que très très difficilement à réduire ses dépenses publiques d'une façon tellement faible que c'est pratiquement insignifiant. Et donc, voilà, on est dans une situation qui est. Voilà, on est dans une situation qui est devenue incontrôlable.
Nous sommes en 2008, M. Reichmann, et de plus en plus, la Chine qui tente de devenir, premier producteur économique sur beaucoup de plans, eux, c'est drôle, mais. Un jour, ils vont rattraper les Américains, ils vont rattraper la France parce que la France a une grosse dette terrible. Et j'ai de la misère à saisir comment se fait-il que, par exemple, en France ou encore nous de notre côté au Canada, je vais vous avouer, c'est tout le contraire de la France, c'est tout le contraire des États-Unis. Ça va très bien. Le dollar canadien qui a quand même perdu quelques points en bourse, mais reste-t-il que notre économie se porte bien? Par contre, je vais vous donner une image. Lorsque les Américains attrapent le rhume, nous on tous, ok?
Oui.
C'est vraiment comme
c'est
ça.
Normal, vous êtes dépendant en partie de l'économie américaine, mais le monde entier est dépendant d'ailleurs de l'économie américaine. Mais ce que vous avez fait vous au Canada, c'est que vous avez rétabli vos finances publiques.
Tout à fait.
En dix ans, le Canada est passé d'une situation qui était assez proche finalement de ce qu'est la situation française actuellement à une situation qui est devenue favorable, et c'est pour ça que les affaires vont bien chez vous.
Et donc, il ne faut pas oublier non plus.
Les affaires vont mal.
Et il ne faut pas oublier non plus que on a du côté canadien, lorsqu'on a vu le marché immobilier du côté des États-Unis s'écraser complètement et voir les banques sans cesse donner du crédit à monsieur et madame tout le monde pour qu'ils puissent se permettre d'avoir une maison, s'acheter une maison. Nous, on a tout simplement décidé de changer la façon de fonctionner, c'est-à-dire on ne donne plus l'opportunité à des gens qui n'ont pas le crédit de se permettre quelque chose qu'ils ne peuvent pas. Alors ça, comme démarche, ça a stoppé énormément la peut-être possibilité qu'on tombe dans le précipice que les Américains se sont mis eux-mêmes dans le pétrin. Et d'ailleurs, il faut sûrement que vous avez entendu la nouvelle que à New York, Fort Knox a tout simplement sorti 25 milliards de l'argent des contribuables parce que les banques manquaient de liquidité. Vous comprenez?
Oui.
Ça va très mal de ce côté-là. Alors, là, je ne sais pas comment les Américains vont réussir à rétablir la situation, mais du côté de la France, on me dit ici, la France est un déficit. La France est déficit et en récession, pas de croissance. Oui. Alors ça va mal.
Mais oui, c'est exactement cela. Et, bon, ce que vous avez fait au Canada, c'est tout simplement ce que doit faire n'importe quel banquier, n'importe quel prêteur. Il doit faire attention à ne pas prêter de l'argent à des gens incapables de rembourser. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que en France d'ailleurs aussi on a été relativement plus prudent, c'est-à-dire que les banquiers français en général examinent la situation financière de l'emprunteur. Donc quand un emprunteur n'a manifestement pas le moyen de rembourser, on ne lui prête pas. Les Américains ont fait autre chose, mais ils ont même aggravé la situation, car ils prêtaient sans se soucier du tout des capacités de remboursement. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'une fois que la bulle immobilière a augmenté, ils reprêtaient à nouveau de l'argent aux mêmes personnes en fonction de la valeur atteinte par le bien immobilier. Je vous prends un exemple qui n'a pas de sens, bien sûr, mais vous prenez par exemple, vous avez une notion, une maison que vous avez achetée 10 000 $, par exemple. Eh bien, la bulle immobilière a fait qu'au bout d'un moment, cette maison valait 15 000 $. Donc les banquiers ont dit, ah ben vous avez une maison de 15 000 $, on peut vous prêter plus d'argent, vous allez pouvoir acheter une voiture ou autre chose, etc. Et quand l'immobilier s'est mis à tomber, parce que les gens ont commencé à vendre,
exactement,
à ce moment-là, le drame est survenu, et les gens n'ont plus pu payer, surtout qu'ils avaient des emprunts à taux variable. Donc tout ceci s'est passé dans des conditions totalement irresponsables, mais le plus grave encore, c'est que ces dettes qui étaient contractées par des particuliers n'ayant pas les moyens de rembourser ont été revendues à des fonds divers, enfin ils ont été constitués par des produits dérivés, si vous voulez, des espèces de mélanges de dettes qui devenaient des obligations, qui ont été achetées par la plupart des banques mondiales, et il y en a, d'après mes informations, il y en a pour 2 500 milliards de dollars. Or, actuellement, le total des crédits pourris qui ont été achetés par les banques occidentales et par une partie d'ailleurs de banques ailleurs, milliards de dollars. Or, on a actuellement nettoyé, au sens où les banquiers l'entendent, quelque chose comme 400 ou 500 milliards de dollars. Donc, il resterait encore pas loin de 2 000 milliards. De crédits pourris qui circulent dans le monde, et c'est la raison pour laquelle les banques n'ont plus confiance les unes dans les autres, car elles ne savent pas exactement ce que leurs confrères, concurrents et collègues détiennent dans leurs fonds, dans leur portefeuille, comme obligation fondée sur les subprimes. Et donc toutes les banques se disent tiens, mon voisin, il a pas bonne mine aujourd'hui, il a dû acheter beaucoup de subprimes à l'époque. Et donc c'est la raison pour laquelle les banques centrales sont obligées de mettre de l'argent sur le marché, parce que sinon les entreprises ne trouvent plus à se financer. Et là il y a vraiment une crise de confiance profonde. Alors tous les jours on nous dit là, ça y est, maintenant cette fois-ci c'est fini. Chaque fois qu'une banque apure en apparence sa dette, elle, par exemple, elle dit, ben voilà, ça y est, j'ai 25 milliards de dollars, ouais, que je suis obligé de passer par profits et pertes, et en l'occurrence par pertes, mais maintenant c'est fini. Ah ben oui, mais le lendemain, il y en a une autre. Et le surlendemain, la même avoue qu'elle avait encore 50 milliards de dollars à nettoyer. Donc le bilan est à chaque fois contesté, donc on est dans une situation qui est extrêmement préoccupante, et de l'avis des meilleurs spécialistes, c'est loin d'être fini.
Et dites-moi, est-ce que, ça va peut-être vous paraître drôle, mais est-ce qu'une faillite ne pourrait pas être envisagée par la France, histoire de se remettre, de repartir à zéro? Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'envisageable?
Ben écoutez, la faillite, pour l'instant, vous savez, les pouvoirs publics américains font tout ce qu'ils peuvent pour qu'il n'y ait pas de faillite bancaire. Ils ont racheté la Bear Stearns, ils ont racheté, enfin entre guillemets, ils ont mis sous tutelle les deux organismes qui refinançaient les crédits subprimes, c'est-à-dire Fannie Mac et Fannie Mae.
D'accord.
Et donc ils mettent de l'argent pour éviter ce qu'on appelle une crise systémique, c'est-à-dire que tout le système s'effondre. Mais nous en France, ce qui nous inquiète le plus, ou ce qui nous importe le plus, c'est la situation de l'État. Vous savez que M. Fillon avait déclaré il y a quelques mois qu'il était le premier ministre d'un État en faillite. Donc la faillite, elle est là. Qu'est-ce qui caractérise une faillite? C'est d'une part le montant de la dette et la capacité d'autre part qu'on a à emprunter pour payer ses dettes. Le problème de la France, c'est le jour où on ne lui prêtera plus, ou on lui prêtera à des taux beaucoup plus élevés, là elle sera obligée de faire une sorte de faillite, c'est-à-dire il y a des dettes qu'elle ne pourra plus honorer.
Exactement.
On a vu l'Argentine, il y a quelques années, être en faillite. On peut effectivement envisager, et d'ailleurs on se demande si ça n'est pas finalement ce qu'il faudrait souhaiter. Ce qu'on peut souhaiter, ce serait un rétablissement avec des bonnes mesures, mais comme ils sont incapables de les prendre et qu'il n'y a pas en France un seul homme politique, je dis bien pas un seul, qui dise voilà ce qu'il faut faire et voilà comment il faut le faire. Donc on peut se demander si ça n'est pas au fond une catastrophe qui finira par nous obliger à remonter.
Monsieur Reichmann, on nous demande via le live@hockey.com, enfin, pensez-vous que la récession en zone euro est durable et que la crise va éclater?
La récession est certainement durable parce que on ne voit aucune raison pour qu'elle cesse rapidement, étant donné que la plupart des États de la zone euro sont dans une situation qui est pas formidable. Mais c'est surtout la France et à un moindre degré peut-être l'Italie, enfin la France et l'Italie vont très mal, mais il y a des pays comme l'Espagne par exemple qui marchaient très bien, mais dont la croissance qui était très forte, c'était l'une des croissances les plus fortes de la zone euro, et c'est eux qui fabriquaient le plus d'emplois dans la zone euro. Ils se sont effondrés avec la bulle immobilière, et maintenant ils vont vers un taux de chômage qui va augmenter très fortement. Ils avaient bien réduit leur chômage, qui est autour de 7 à 8%. Maintenant, ils vont atteindre rapidement 14 ou 15, et certains disent même que ce sera pire. Donc, je pense que nous allons avoir une crise d'assez longue durée, et elle sera, comme toutes les crises d'ailleurs, entretenue par la baisse des recettes. Quand il y a une crise, bon, les impôts rentrent moins bien, et comme on n'est pas capable de réduire les dépenses, ça va être difficile. Mais il y a des pays qui s'en sortiront mieux, mais il y a des pays qui auront de plus en plus de mal. Donc, disons que dans l'instant, vous savez, le vrai problème, en fait, de la zone euro, oui, de l'Europe de façon plus générale, ce sont ces pays qui n'ont pas de systèmes sociaux trop lourds. Par exemple, l'Espagne et l'Irlande ont commis l'erreur de laisser se développer une bulle immobilière importante. Mais d'une manière générale, si on considère vraiment l'ensemble de la zone euro, le problème que nous avons, c'est que nous avons des dépenses publiques beaucoup trop importantes et surtout des systèmes sociaux trop lourds. Or, dans un système concurrentiel, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est la raison pour laquelle je mène le combat que vous connaissez contre le monopole de la sécurité sociale, parce que voilà, si vous pouvez vous assurer librement, vous pouvez obtenir des conditions beaucoup plus avantageuses, avec une couverture au moins égale et souvent bien meilleure que celle de la sécurité sociale, et ça vous coûte moins cher, donc vous avez de l'argent pour consommer, pour investir, et tout va mieux. Mais le drame, c'est que les systèmes sociaux sont considérés comme des espèces de vaches sacrées, si vous voulez, et que toute personne qui dit qu'il faudrait changer de système social est considérée comme quelqu'un de dangereux. Et donc, alors même que ce que cette personne dit, c'est au fond la seule façon de se sauver. Et tant que nous n'aurons pas réussi à diminuer le poids de nos systèmes sociaux, et la solution, c'est la concurrence, il faut les mettre en concurrence de manière à ce qu'on les paye moins cher.
Ouais.
Et certains nous disent, oui, mais la solidarité, attendez, la solidarité existe. Oui, mais puis d'abord
à permettre... Excusez-moi.
Non, mais je suis d'accord avec votre interjection. je m'y associe volontiers.
On l'a entendu tellement souvent une fois de la part des syndicats qui sortent, excusez-moi, là, mais faire chier les gens à bloquer les rues sans arrêt. Non, on s'en fout de la solidarité. Là, ce qui est important, c'est de sauver le derrière de la France et faire en sorte que les gens ne soient pas endettés à vie ou que les enfants naissent sans avoir une dette déjà en naissant. Merde.
Exactement. Alors, il se trouve que la solidarité n'est acceptable que dans la mesure où elle s'applique à des gens qui en ont vraiment besoin. Bon, les gens qui sont très malades ou qui sont dans la pauvreté, il est normal qu'on les aide. Mais le problème, c'est que ceux que nous prétendons, en France en tout cas, que nous prétendons aider à sortir de la pauvreté, ce sont les gens qu'on y a installés. Et on les a mis dans la pauvreté parce qu'on a fabriqué une économie dans laquelle on saigne littéralement les entreprises et même les particuliers. Donc on fabrique des pauvres et ensuite on se dit « Ah, mais nous allons être très généreux, nous allons être solidaires avec les pauvres ». La meilleure des solidarités, c'est de ne pas les rendre pauvres. C'est ça le véritable problème. Or, vous avez un ministre français, enfin un haut commissaire aux solidarités actives, c'est le nom qu'il porte, c'est Monsieur Hirsch, qui vient de mettre en place, avec l'accord du gouvernement, ce qu'on appelle le revenu de solidarité active. C'est-à-dire qu'on va payer les gens qui ne travaillent pas pour qu'ils travaillent. Alors, ils touchent déjà de l'argent, mais on va ajouter de l'argent pour qu'ils aient intérêt à travailler. Alors, vous imaginez le système. Or, tous ces gens sont dans la situation où ils se trouvent parce que les entreprises n'arrivent plus à les employer parce qu'on leur prend trop d'argent. Et donc, vous voyez qu'on fabrique, M. Hirsch faisait partie des gouvernements socialistes qui ont évidemment aggravé la charge fiscale et sociale en France, et maintenant il se pose comme celui qui veut faire sortir les gens de la pauvreté. Dans d'autres domaines, on appelle ça un pompier pyromane.
Oh.
C'est quelqu'un qui met le feu, et puis qui ensuite qui arrive et dit « Regardez, regardez comme je suis dévoué, et maintenant je vais éteindre le feu. Ben, » la meilleure des choses, c'était de ne pas le faire, de pas mettre le feu. Et donc voilà la raison pour laquelle les choses vont mal, et tous ces gens sont des imposteurs, il n'y a pas d'autre mot. Ils se posent en modèle de vertu pour un peu leur mettre une petite auréole sur la tête, mais en réalité ce sont des gens qui sont nuisibles, ce sont des malfaisants, et voilà comme disait Michel Audiard, le dialoguiste le fameux, qui à propos de Michel Audiard,
oui, allez-y.
C'est lui qui... J'ai entendu ça dans un vieux film, ça va sûrement vous amuser. C'est un film que jouait un film où Jean Gabin, que vous connaissez sans doute,
un
acteur qui est aujourd'hui disparu mais qui avait beaucoup de talent, jouait donc le personnage d'un baron plus ou moins vrai ou faux, peu importe. Et un gars lui disait « Ah, je vais lui parler d'argent, mais il ne m'écoutera pas. » Et le gamin lui disait sur le dialogue d'Audiard « Monsieur, quand il est question d'argent, à partir d'un certain montant, tout le monde écoute. »
C'est tout à fait.
Réplique, hein.
Ah oui, c'est le genre de réplique que j'aime beaucoup. C'est sûr et certain, tout le monde. C'est un peu la réplique tout le monde a son prix, hein. Tout le monde a
ouais,
son.
Voilà. Alors. Ben exactement.
Oui.
C'est comme les gens qui disent, vous avez des antiquaires qui prétendent ne vendre qu'à leurs amis. Bon, ben c'est ennuyeux, non, mais si vous achetez, vous devenez un ami.
Oui, évidemment, oui, l'équation est facile ici.
Voilà, l'équation est facile.
Tout à fait. J'ai une autre question de la part d'un auditeur, M. Reichmann, car on cotise beaucoup, car on cotise beaucoup à l'Union européenne pour 3 euros donnés. On reçoit uniquement, on a droit à un déficit de 1 égale 18 milliards par année.
Vous parlez des finances de l'Union européenne?
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que, bon, vous savez, l'Union européenne a des finances pas très importantes, en fait.
Oui.
Donc, il y a la règle générale, c'était... vous savez que le budget de l'Union européenne est consacré pour l'essentiel, pour 40%, aux subventions agricoles. C'est des chiffres absolument énormes. Bon, je ne crois pas qu'on puisse vraiment... faire un calcul uniquement fondé sur je donne et je reçois.
Oui.
Parce que, en fait, quand vous donnez, prenez l'exemple de certaines subventions, des pays comme l'Espagne, par exemple, qui ont reçu beaucoup de subventions européennes quand ils sont entrés en Europe pour les remettre à niveau. Une fois qu'ils sont à niveau, ils se mettent à consommer beaucoup plus et on leur vend et on gagne. Donc, mais de toute façon, le budget européen est un petit budget. Vous vous rendez compte, c'est un budget très faible.
Alors, la personne nous demande ici, une des solutions ne consisterait pas-t-elle à sortir de l'Union européenne et de sortir de l'euro pour revenir au franc?
C'est-à-dire que si on fait ça, si la France fait ça,
ouais.
elle est sûre de devoir dévaluer sa monnaie très très rapidement. Jusqu'à présent, c'est l'euro qui nous a permis d'éviter au moins 3 ou 4 dévaluations, parce
c'est
que
ça.
La monnaie française fait partie d'un ensemble, et l'ensemble se porte beaucoup mieux que ne se porte la France. Donc la solution n'est pas dans la sortie de l'Europe, ni dans la suppression de l'euro, en tout cas pas d'une manière unilatérale. En tout cas, si nous étions amenés à le faire, ce qui peut être arrivé un jour, parce qu'il n'est pas impossible que les pays européens, voyant que la France est incapable de maîtriser ses finances publiques, lui disent « Bon, au revoir, merci, vous rentrez chez vous ». Bon, évidemment, ils hésiteront à le faire, parce que, vous savez, quand on a tricoté un truc aussi compliqué que l'Europe, que l'Union européenne, l'Union monétaire, les frontières ouvertes, etc., c'est compliqué. Mais non, je crois que la solution n'est pas dans ce genre de décision, elle est dans une décision qui consisterait à dire je vais baisser les dépenses publiques. Et ma solution à moi, celle que j'ai présentée lorsque j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2002, j'ai indiqué que ce qu'il faudrait faire, c'est baisser, et de 2002 à 2008, la situation ne s'est pas arrangée, il faut baisser de 20%, parce que c'est à peu près le chiffre auquel nous devrions arriver, les dépenses publiques. Et moi, je disais qu'il faut, de préférence pas dans une période de crise économique, parce que là, à ce moment-là, tout devient un peu plus difficile, mais dans une période où on est à peu près à flot, il faut baisser la première année de 10% toutes les dépenses publiques, sociales et autres, et pour tout le monde, sans aucune exception. Et puis l'année suivante, on fait encore 5, et l'année d'après, encore 5, et on est à flot en 3 ans. Alors évidemment, tout le monde va devoir se priver, mais au moins n'a-t-on pas la grande difficulté qui consiste à dire qui est plus méritant et qui l'est moins. À partir du moment où il y a un problème national, il faut traiter nationalement. Bon, on dit, dans une famille, par exemple, lorsque une difficulté survient, tout le monde se prive. Bon, on peut évidemment faire un petit peu plus, un petit peu moins, mais je veux dire, le principe de base, c'est qu'on dépense moins. Bon, la France est parfaitement capable.
Ah, oui.
Et figurez-vous que si on faisait cela, une politique qui peut sembler brutale à certains, mais il y a des médecines qui doivent être brutales compte tenu de l'état du malade, eh bien, si nous faisions cela, nous serions ramenés simplement au niveau de l'Allemagne, au niveau actuel de l'Allemagne. Vous imaginez, nous ne serions pas les vedettes de la baisse des prélèvements, nous serions simplement ramenés parmi les pays qui se comportent convenablement.
Oui. Donc,
c'est vous dire l'ampleur du problème.
Monsieur Reichmann, on me dit ici, si on baisse de 10% les dépenses en France, eh bien, on va droit à la guerre civile. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose de plausible?
Ben, écoutez, la guerre civile, ça se passe surtout lorsqu'il n'y a pas d'injustice, lorsqu'il y a un pays qui est collectivement responsable de ses dérives, à faire systématiquement une baisse des prélèvements obligatoires, baisse des dépenses publiques, ce qui fera bien entendu baisser les prélèvements obligatoires. Non, moi, de toute façon, si guerre civile il doit y avoir, c'est certainement plus en continuant la politique actuelle qu'en prenant des mesures qui seraient vigoureuses. Le seul problème, voyez-vous, qu'il y a, c'est que ce genre de politique ne peut pas être menée comme ça. Vous ne pouvez pas arriver un beau matin en disant, de toute façon, vous n'auriez pas le pouvoir si vous arrivez un beau matin. Ça se prépare, mais il faut que l'opinion publique y soit prête. Donc il faut qu'on explique aux gens quelle est la situation du pays, ce qu'on peut attendre d'une telle politique. Bon, à partir de là, je pense que les gens raisonnables, qui sont quand même une majorité, comprendront qu'on ne peut pas, on ne peut plus continuer comme ça. Et pour y parvenir, je crains qu'il ne faille tomber encore plus bas, c'est-à-dire arriver à un stade où vraiment les finances publiques vont s'effondrer, et c'est là qu'il y a un risque de guerre civile.
Mais les Français refuseront une politique de crise de genre. On est coincé à ce moment-ci, M. Reichmann.
Oui, mais ils la refuseront tant qu'ils n'auront pas compris qu'on est complètement coincé. Et donc le jour où, par exemple, les retraites ne seront plus payées, ou les prestations sociales ne seront plus payées, ben là, effectivement, le drame se nourra. Mais là, c'est là que les gauchistes essaieront de dire, ben vous voyez, c'est ce système libéral qui est la cause de tous ces problèmes, alors qu'en réalité, c'est l'absence de politique libérale qui aura provoqué cela. Et donc, c'est en cela que la situation est grave. Mais je pense que nous ne sommes pas encore arrivés assez bas pour que les gens se disent, eh bien, il faut vraiment prendre des mesures vigoureuses.
Le nombre de pauvres est si important et la classe moyenne sont fragilisées au maximum. Je suis sûr et certain que le moindre mouvement fait par le gouvernement, ou est-ce qu'il y a une coupure dans quelque chose au niveau de leur portefeuille, ça va exploser de votre côté. C'est ce que je peux voir fréquemment à la télévision ou encore à lire dans les nouvelles de chez vous.
Oui, effectivement, on est arrivé à un stade où, vous savez, les Français n'ont plus confiance en personne.
Ah, ça c'est vrai.
Ouais. Et au premier chef, ils n'ont plus confiance dans leur gouvernement. Donc, et dans les gouvernements, qu'ils soient d'ailleurs, il y a une totale dépréciation de l'idée que se font les gens de ceux qui les gouvernent. Donc, les gouvernants actuels ne peuvent plus se permettre grand-chose. Et la raison, c'est qu'ils ont perdu la confiance des gens par l'absence de politique vraiment substantielle. Mais ce qui vient de se passer est extrêmement grave. C'est que l'élection de Nicolas Sarkozy avait suscité de grands espoirs. Personnellement, je n'ai n'étais pas de ceux qui croyaient qu'il le ferait, parce que je le connais quand même assez bien pour savoir que ça n'est pas vraiment un homme de rupture. Enfin, toujours est-il qu'il y a quand même 19 millions de Français qui ont cru qu'il allait pratiquer la rupture. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont extrêmement déçus. On ne rencontre plus que ça maintenant. Je me rappelle, au moment de l'élection présidentielle, quand je faisais remarquer à certaines de ces personnes que leur enthousiasme pour Nicolas Sarkozy était, de mon point de vue, un petit peu hâtif et insuffisamment mesuré, ils me disaient « Mais non, vous ne vous rendez pas compte, c'est ce type qui va sauver le pays, etc. » Il faut dire que Sarkozy a un baratin absolument extraordinaire. Hein. C'est un type, il vendrait, comme dit l'autre, des frigidaires à des Esquimaux. Hein. Mais le problème, c'est qu'il n'a évidemment rien fait de ce qu'il prétendait faire, et qu'aujourd'hui, les gens sont complètement désemparés. Et donc, ils ont la tête entre les épaules, ils se disent « Mais qu'est-ce qui va nous arriver ?» et ils ne font rien. Donc, c'est une situation qui est très, très malsaine, et je dirais que elle est d'autant plus malsaine qu'il y a eu des espoirs. S'il n'y avait pas eu autant d'espoirs, il est vraisemblable que les gens seraient moins déçus, ça, c'est évident.
C'est tout à fait. Monsieur Reichmann, vous êtes au courant que les États-Unis sont sur le point... ils sont dans une course aux élections, John McCain, Barack Obama. Peut-être vos impressions, oui, sur les deux candidats. Qu'est-ce que ça vous inspire il y a dans les médias, comment on rapporte cette course aux élections-là? Est-ce qu'on a plus un favori sur Barack Obama ou encore John McCain?
Eh bien, en France, à 80%, paraît-il, les gens votent Obama. Heureusement, ce ne sont pas les Français qui votent, mais les Américains. Oui. De toute façon, les Français ont toujours voté pour le perdant. Donc, on peut avoir bon espoir. Bon, personnellement, vous comprenez bien que c'est beaucoup plus McCain. Obama, d'ailleurs, a un discours totalement incompréhensible. On ne sait même pas ce qu'il veut faire. Bon, il est dans la situation du type qui promet tout et le contraire de tout. Je n'ai personnellement pas grande confiance en lui. En toute hypothèse, c'est un socialiste. Même s'il se défend de l'être, c'est un homme de gauche. Donc, ça n'est pas lui mon candidat. Bon, je suis évidemment favorable à McCain, qui d'abord a prouvé dans sa vie qu'il avait l'étoffe de quelqu'un qui a du courage et qui sait prendre ses décisions. Et puis je pense qu'il s'inscrit dans une ligne qui est très importante, parce que, là, vous savez, en France, Bush est très impopulaire. Il est peu populaire aux États-Unis, je crois qu'il a 34% de taux de confiance. Mais la question qui se pose est en fait extrêmement simple. Que se serait-il passé si, au lieu d'engager les hostilités en Afghanistan et en Irak, Bush n'avait rien fait? Il avait dit « Oui, nous allons poursuivre les terroristes, etc. » comme l'avait fait Clinton. Et il aurait envoyé un missile en plein désert qui n'aurait fait de mal à personne, et ça aurait été pour solde de tout compte. Eh bien, ce qui serait passé, c'est que les terroristes se seraient enhardis de plus en plus, oui, et la chance de l'Occident, c'est d'avoir eu quelqu'un qui a eu assez de caractère comme Bush et qui a été soutenu suffisamment par les Américains pour montrer que l'Occident était capable de se défendre.
Exactement.
C'est ça qui est très important.
Je suis toujours étonné de voir à quel point il y a des Français, parce que hier soir, il y avait une émission sur www.rocket.com où est-ce que l'on parlait des vedettes de votre côté, comme Marion Cotillard, qui a gagné un Oscar pour la personnification, oui, de Edith Piaf. Alors, oui, bon, elle a une heure, c'est 1 minute 40 de conneries, excusez-moi, mais c'est ce que je vois dans, c'est ce que j'entends à chaque fois que je passe l'audio de Marion Cotillard, qui dit que bon, c'est des Américains qui ont inventé ça de toutes pièces. Faut être vraiment fou pour penser des choses pareilles.
Surtout pour ceux qui l'ont vu en direct. Moi, vous savez, j'étais à l'époque, le jour des attentats, le 11 septembre, j'allais faire mon émission à la radio. Et j'ai vu en direct, juste au moment de partir, les avions tomber sur les tours. Et j'ai fait mon émission en direct avec les dépêches qui m'arrivaient, etc. Et donc, j'en ai un souvenir extrêmement précis. Et donc, quand j'entends une fille comme Marion Cotillard qui vraiment raconte n'importe quoi, mais elle a été suivi dans ce genre de bêtises par Jean-Marie Bigard, vous savez, le comique.
Oui, tout à fait, le comique, oui.
Voilà, alors il s'est excusé ensuite. Il a dit non, je ne savais pas ce que je disais, etc. Alors, c'est un grand copain de Sarkozy, donc.
En plus, étrange, ouais, étrange. Je ne sais pas si Nicolas. Je ne sais pas si Monsieur Reichmann, Nicolas Sarkozy pense la même chose que Monsieur Bigard.
je ne le pense pas, mais il a des amis qui sont encombrants quand même.
Et voilà.
De mieux choisir ses amis parce que c'est quand même quelque chose d'assez pénible. Bon, d'autant plus que c'est n'importe quoi. Et donc, mais vous savez, c'est vrai, la théorie du complot, c'est un truc de paranoïaque et puis de gens souvent qui détestent finalement la civilisation occidentale. L'air de dire, comprenez, l'Occident ne pense qu'à une chose, c'est à l'argent, et ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Enfin bon, tout ça est tellement stupide que ça ne mériterait que le mépris, mais malheureusement, il faut quand même leur répondre à ces gens-là, parce qu'ils font du mal. Et si on ne leur répond pas, on leur donne l'impression de leur donner une certaine manière raison.
Et il y a une chose qui est certaine, on me pose je vais vous poser cette dernière question, puis par la suite on pourra se reparler la semaine prochaine si vous le désirez.
Bien sûr.
Pensez-vous qu'il y ait une guerre possible en Europe bientôt ou à court terme ou à long terme,
je ne pense pas que parce qu'il peut y avoir il peut y avoir des guerres civiles, oui, ça bien sûr. Parce que quand vous avez des populations mal intégrées dans certains pays, c'est le cas de la France, c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de l'Angleterre également, il peut y avoir des troubles qui dégénèrent. Mais bon, les guerres, il n'y aura pas de guerre entre les nations, puisque actuellement elles ne sont ni en état ni désireuses de se faire la guerre. Mais ce qui est à craindre, ce sont les guerres internes. Et ça, elles sont extrêmement redoutables. Parce que quand vous avez des populations mal intégrées, il faut s'attendre à des troubles souvent très graves, surtout au moment où l'économie se met à défaillir. Parce qu'à ce moment-là, vous avez évidemment des tas de gens qui n'ayant plus l'assistance à laquelle ils paraît-il droit, en tout cas c'est comme ça qu'ils le voient, se mettent à ne plus accepter la situation. Donc ça, c'est très dangereux. Quand un État-providence n'apporte plus la providence, eh bien il est très menacé. Et donc c'est ça la véritable menace qui pèse sur les États européens, et bien entendu le risque du terrorisme est toujours là. Mais moi j'ai beaucoup plus de crainte en ce qui concerne la situation intérieure qu'en ce qui concerne une éventuelle agression dont on ne voit pas très bien d'où elle pourrait venir.
Oui, vous parlez d'agression, il y en a encore eu quelques-unes, qui sont encore très fraîches.
Vous parlez de la Russie et de...
Oui.
Non, c'est ça.
Oui,
la Russie,
oui, tout à fait.
Disons que là, c'est un problème un petit peu différent. C'est-à-dire que là, il y a un problème de situation géographique. La Géorgie est aux marges de la Russie. Bon, il y a eu également une maladresse, c'est le moins qu'on puisse dire, commise par le président géorgien, M. Saakashvili, et qui aurait mieux fait de ne pas engager les hostilités, alors qu'il ne pouvait pas ignorer que les Russes se préparaient depuis longtemps. Vous savez, les Russes, ils font toujours la même chose. Il n'y a pas que, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Quand les Russes, on peut savoir quand les Russes vont intervenir quelque part, ils font des manœuvres militaires. En 1968, quand ils sont intervenus en Tchécoslovaquie pour mater le printemps de Prague, eh bien, ils ont organisé des manœuvres dans toute l'Europe de l'Est. Et donc, ils étaient prêts à intervenir. Le moment venu, ils sont intervenus. Là, depuis plusieurs mois, Les Russes manœuvraient au nord de l'Ossétie du Sud, sur le territoire russe,
oui.
Et donc le président Saakashvili ne pouvait pas ignorer que les Russes étaient prêts à intervenir. S'il l'a ignoré, c'est qu'il est d'une naïveté confondante. Peut-être a-t-il cru que les Américains allaient voler à son secours, mais les Américains sont engagés dans des actions qui nécessitent de leur part toute leur attention, et en particulier vis-à-vis de l'Iran et vis-à-vis de ce qui se passe dans l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient. Et donc les Américains n'avaient pas engagé un autre front, surtout contre les Russes, dont ils ont quand même besoin, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une partie des États par lesquels passe l'approvisionnement en pétrole de l'ensemble de l'Occident et en gaz naturel passe par des territoires qui sont tout proches de la Russie. Donc le président géorgien a commis une véritable erreur. Double erreur. Erreur de passer à l'attaque et erreur de penser que les Occidentaux allaient lui apporter un soutien sans faille. Eh bien, il est obligé de, d'en rabattre.
Exactement. Monsieur Reichmann, je vous remercie beaucoup. Puis j'espère que vendredi prochain, à peu près à même heure, là, on pourrait se dire 6 heures exactement pour nous.
Oui, voilà. Je veux dire, 6 heures, midi oui. chez nous et 6 heures du matin chez vous.
Exact.
Mais j'espère qu'on aura un contact plus facile qu'aujourd'hui. On a eu un peu de mal à se trouver. Mais vous savez, c'est parce qu'on avait perdu l'habitude, c'est pour ça.
Ah, voilà.
Ça faisait quelques mois qu'on ne s'était pas parlé, donc voilà.
C'est comme un vélo avec la chaîne, la chaîne est rouillée, on met un peu d'huile et le tour est joué, M. Reichmann.
Exactement. Alors, à la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, M. Reichmann.
Au revoir et bonne suite d'émission. Au revoir.
Merci beaucoup. Alors, c'était Claude Reichmann que vous avez entendu en entrevue. Il est à présentement 7h36 minutes, plus exactement. Pour vous, les Français, c'est pas trop compliqué, hein. Il est exactement 13h35 minutes. On fait l'arrêt ici avec une petite toune et on revient dans quelques instants, dans deux petites minutes. Il y aura les nouvelles d'actualité bien sûr, et bien sûr de sport. Alors c'est parti, Wake Up le show de 6h à 9h et de midi à 15h. live@hockey.com, MSN, Skype. Juste rapidement, j'aimerais peut-être lire ce qu'on m'a envoyé de la part de Cédric ici. Rapidement, je vais vous laisser en rafale ce qu'il me dit. À la télévision, on parle de la fin de monopole de EDF, par exemple GDF, la CNF, CNCF, pardon, de la RAPT ou encore de la Poste. Et pourquoi on évoque rarement celui de la sécurité sociale? Ben ça, c'est des trucs justement lorsqu'on discutait avec Claude Reichmann qu'on a abordé d'une certaine façon. Mais c'est vrai que souvent on ne remet jamais ça en cause, la sécurité sociale, parce que dans la vie de tous les jours, on se le cachera pas, c'est quand même complexe la survie de tous et chacun. On peut pas s'occuper de tous les chiens, les petits chats errants qu'on peut voir dans la rue et qui demanderaient d'avoir un logis, un toit. Alors à un moment donné, c'est comme d'aider tout le monde, d'aider tous les animaux qui sont malades. Tout ceci, on remet en cause la version du 11 septembre, mais on remet jamais en cause la version officielle du 21 septembre à propos de l'explosion à Toulouse. Ça, c'est quelque chose aussi qui est fort logique de ce côté-là comme commentaire, comme citation. Et après ça, peut-être une dernière. Ministre de Sarko a dit que le 11 septembre a été fait par les Américains. Ça, c'est aussi intéressant à savoir parce que vous voyez, un ministre de Sarko qui croit que le 11 septembre a été orchestré par les Américains de A à Z pour vraiment être crackhead longtemps. Allez, c'est parti, on y va en musique et on revient tout de suite après ceci. Je vous répète, ce sera les nouvelles et bien sûr les sports faits par Christian Dallaire. Vous écoutez Wake Up le show avec Ismaël Crépanier, votre punisseur. Je vous rappelle les adresses ou vous les connaissez déjà? Non, on part en musique, c'est parti.